à la médiathèque d'Iwavercor la balise sonore. Un atelier de réalisation radioactif.
Bonjour. La balise sonore sur RDIWA 107.5, 101.7 FM. Jacques Mourican au cœur des gens.
Jacques Mourican.
Je savais que tu allais être là. Lorsque j'ai vu la porte entrouverte, je me suis dit.
Mardi 3 octobre 2023, à l'occasion de la Semaine Bleue, la médiathèque d'Iwavercor accueillait Jacques Mourican.
C'est pour arranger des choses.
Fondateur de Vidéo Val de Drôme en 2015, il venait là raconter l'aventure de cette association qui, depuis, a constitué une foisonnante ressource de films documentaires.
Et quand il aurait la bonne nouvelle, il battrait des ailes. Et c'est ce qui s'est passé le 11 novembre.
Une véritable mine d'informations et de témoignages dans lequel on peut trouver désormais de quoi se souvenir et s'inspirer.
Mais c'est pour être gentil.
Quelques minutes avant que le public curieux ne rejoigne la salle de conférence, nous avons tendu nos micros à celui qui, passionné de récits, a donné la parole à celles et ceux qui font l'histoire de la vallée de la Drôme.
Je dis des petits mensonges, mais pas gros.
Aujourd'hui retraité, Jacques Mourican a été journaliste pour la presse écrite, la télévision et même la radio durant plus de 40 ans. C'est bien ça.
C'est bien ça, mais oui, j'ai été énormément journaliste de radio, à peu près partout, mais très notablement à la radio suisse romande, qui est l'équivalent de France Inter, si vous voulez, mais en Suisse, hein, c'est l'équivalent. Alors par ailleurs, il est vrai que j'avais travaillé comme documentariste à France 3, où j'ai fait pas mal de documentaires, et d'autre part, j'ai été un peu dans la presse écrite aussi, oui.
Mais tout de même, quel journaliste avez-vous été tout jeune, sans doute, et inspiré par quoi?
Bon, moi, je pense qu'on est des pédagogues et que, au fond, ce qui m'a fait plaisir, j'ai en particulier énormément travaillé sur les sujets d'histoire et les sujets de géopolitique. Pour s'agissant de la radio suisse romande, j'avais même une émission qui était consacrée à la géopolitique. Donc, je crois que c'est très important d'offrir au public une compréhension facile, dans des mots simples, des événements qui conditionnent leur vie. Je vais vous faire remarquer au passage que c'est exactement ce qu'on continue de faire avec Vidéo Val de Drôme. Mais bon, ça a été ma grande déformation professionnelle, si vous voulez. J'ai beaucoup travaillé dans cet esprit-là. Et puis, c'est vrai qu'avec Vidéo Val de Drôme, il y a une dimension de chaleur humaine, si vous voulez. Nous, on fait parler des gens qui, d'habitude, n'ont pas accès aux caméras, n'ont pas accès à l'électronique. Et je dois dire que c'est le grand bonheur, si vous voulez, le grand bonheur de cette expérience.
À Ousselon, au plus profond du Diwa, vit Jean-Yves Girard, Gigi pour tout le monde, et Dieu sait qu'il est connu. Fuyant la carrière tranquille qu'aspirait pour lui sa famille, il est devenu berger, après avoir rêvé, comme beaucoup d'autres, au Larzac. De la plaine provençale de la Croix aux alpages de Savoie, il a couru les sentiers, y laissant sa santé et ne gagnant guère. Mais cet air pur, ces bêtes par milliers, ces paysages magnifiques, il les a passionnément aimés. Et, par chance, Il a un talent fou pour les raconter.
Mais avant de parler donc de l'association que vous avez créée en 2015, l'association Vidéo Val-de-Drôme, je voudrais savoir au fil du temps, est-ce que vous avez pu observer que le journaliste que vous étiez, que vous êtes, a évolué, mais de quelle manière ?
C'est une question terrible que vous posez là, parce qu'en fait, vous disiez tout à l'heure que ça faisait 40 ans que j'ai fait ça. Non, non, c'est plus que ça. J'ai fait plus de 50 ans de journalisme. Je crois que on comprend lentement que pour arriver à un bon contact avec le public, il faut d'une certaine manière être un auteur. C'est-à-dire qu'il faut avoir une personnalité, alors à l'antenne lorsqu'on fait de la radio. Je veux dire que ce ne soit pas n'importe qui est en train de parler, de la même manière que par la suite j'étais amené à écrire un certain nombre de livres. Et chaque fois, il y a quand même la personnalité de celui. Il faut reconnaître que lorsqu'on débute dans le journalisme, on est quand même très, très en retrait, si vous voulez. On est hésitant, on est timide, on n'ose pas, si j'ose dire. Il vient un temps, et notamment du fait des réactions du public, qui d'une certaine manière vous demande de vous mouiller un peu, d'apparaître un peu. Il vient un temps donc où on se dit, bon ben, je me lâche et je serai celui qui raconte à ma manière. Et je crois que c'est ce que nous faisons.
Mais alors, qu'est-ce qui a déclenché ce moment-là ? Qu'est-ce qui a produit ce moment où vous vous êtes lâché, comme vous dites ?
Le public. C'est le public qui décide. C'est le public qui demande. C'est lorsque, brutalement, vous vous rendez compte que dans tel ou tel sujet que vous avez traité, il y a un accueil particulièrement favorable, parce qu'au fond, d'une certaine manière, les gens sont venus au contact de vous, d'une certaine manière. Eh bien, à partir de ce moment-là, vous vous dites « Ah, ça a marché !» Eh bien, on va en remettre une couche. Et je dirais que la timidité, la réserve qu'on peut avoir au début, et notamment la réserve que l'on a parce qu'on a le sentiment de ne pas être très bon, et quelquefois on n'est pas très bon, hein, il faut aussi le dire. On devient d'autant meilleur, si vous voulez, qu'on devient vrai en tant que personne. C'est-à-dire qu'au-delà de la carte de presse, la personnalité de Dupont ou Durand s'affirme. Et que finalement, la carte de presse n'est plus très important, ce n'est pas le sujet. Voilà, donc je crois que quoi qu'il en soit, c'est la réception par le public qui est la chose déterminante. Lorsque vous vous rendez compte qu'il a envie, au fond, de vous connaître un peu mieux, eh bien, vous y allez.
Ça n'en a pas l'air, mais nous sommes ici sur le territoire communal d'une ville, dit dans la Drôme, possède en effet encore beaucoup de terres agricoles, et nous suivons là Pierre Gautrenot, qui possède des vignes.
Là, mais on est dans les dernières vignes que j'ai plantées, donc je sais pas, j'ai commencé celle-là à la fin des années 90, celle-là au début, en 2000, je crois, j'ai eu près de 22 propriétaires, pour travailler à peine 25 hectares, quoi, voilà. Donc là, là, c'était une parcelle. Celle-là, elle est grande encore. Celle-là, elle fait 50 hectares. Celle d'à côté, elle en fait 25.
Et quel regard vous avez, vous, sur les jeunes journalistes, ceux qu'on voit à la télé ou qu'on peut lire ou qu'on peut entendre à la radio ? Est-ce que vous avez un point de vue un peu général là-dessus, sur la manière dont on fait du journalisme aujourd'hui en France ?
Écoutez, d'abord, je suis très embarrassé parce que il faut reconnaître que d'abord, je suis peut-être pas un très bon observateur. Maintenant, je regarde pratiquement plus la télévision, donc je suis mal placé pour en parler. La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que au fond, ce qui était formidable lorsque j'ai fait de la radio et assez largement aussi de la télévision, et par conséquent aussi de la presse écrite, c'est que vous êtes très anonyme. Je veux dire par là que la recherche de la gloire n'est pas le sujet. Moi, il m'est arrivé, notamment à cause de mon travail à la radio, que des gens me disent « Mais attends, toi, t'es mourican. » Parce qu'en fait, ils avaient mémorisé la voix. Et c'est-à-dire très intéressant, moi, je m'intéresse beaucoup aux voix. Mais au demeurant, par exemple, un journaliste de radio, c'est quelqu'un de très méconnu. Il peut marcher dans la rue, personne ne va l'arrêter, enfin, sauf si sa radio fait une campagne de pub sur lui. Mais, et de ce point de vue, je crains que la nouvelle génération, très dominée par l'image, ne soit quelque part dans une demande de gloire. Moi, très franchement, la gloire, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est avoir le sentiment qu'il y a une réaction à ce qu'on a pu faire. De ce point de vue, il faut dire que maintenant, nous sommes donc au 152e film de Vidéo Val-de-Drôme et on constate qu'on est un peu installé dans le paysage. C'est-à-dire que les gens nous disent « Ah, c'est vous ! Ah bon, très bien !» Et ça veut dire qu'un jour, ils ont vu quelque chose. Et ça, je dois dire que c'est extrêmement bon, extrêmement agréable.
Nous sommes ici à Val-de-Drôme. Ce n'est peut-être pas le bout du monde, mais c'est du moins l'extrême bout de la Drôme. Et vraiment, on est bien loin. Ce pays de lavande et d'élevage de moutons connaît lui aussi, malgré la protection que pourrait lui accorder son isolement, les changements du monde. Il est, de ce point de vue, absolument représentatif de ce que les écrits savants appellent le rural profond. Profond, oui, bien sûr, mais oublié aussi. Jean-Louis Gondouin, agriculteur retraité et fort longtemps maire de son village, a le sens de l'observation et c'est tant mieux pour nous. Dans son perchoir au-dessus du village de Val-de-Drôme, il n'a pas oublié comment c'était jadis et ce que c'est devenu.
Monsieur Jacques Mourican, en 2015, avec d'autres, sans doute, vous créez cette association Vidéo Val-de-Drôme. Mais alors, dans quel contexte? Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous ayez cette besoin, peut-être, cette envie, en tous les cas, ce désir de créer des films donc documentaires?
Alors, si il faut que je dise la vérité ou il faut que j'ai le droit de raconter des mensonges? Parce que si je voulais vous raconter un mensonge, je dirais qu'on avait une pensée extrêmement élaborée, etc. C'est absolument pas vrai. Ce qui s'est passé, c'est que lorsque j'ai pris ma retraite, ayant eu une vie très active, j'ai eu envie de continuer une activité. J'ai commencé par m'acheter pour mon compte privé une caméra, qui n'était pas une caméra formidable, mais qui d'ailleurs, elle est toujours là, elle marche toujours. Et très rapidement, lorsque j'ai fini de filmer la cuisine de ma copine qui en avait ras-le-bol de me voir balader dans le coin, je me suis dit, on va recueillir le témoignage d'une voisine ou quelque chose comme ça dans la vallée de la Gervanne où je vis, dans la Drôme. Et bon, puis je me suis trouvé avec un film, je vais en faire quoi? Je me suis dit, On va monter un petit site internet, mais tout ça était alors totalement amateur. Et c'est d'ailleurs, je pense que ce film était assez mauvais. Bon, mais à ma stupeur, j'ai découvert qu'il y avait du public. J'ai dit, c'est quoi ce truc-là? Parce que moi, je faisais ça pour m'amuser, si vous voulez. C'était pas. Et assez. Alors, il est important de mettre un peu en scène ma compagne, qui est productrice de télévision à la télévision suisse romande, c'est-à-dire l'équivalent, si vous voulez, de France 3, par exemple, en France. Et on s'est dit, il faut prendre ça au sérieux. Et donc, on a commencé à créer une association. Et l'association est née après le début de notre activité. Il y a eu, en gros, 9 mois pendant lesquels on produisait un peu comme ça. Et puis, à notre surprise, il y avait du public. Alors, on s'est dit, on va y aller. Et puis, à partir de là, au fond, et sur la base de l'idée que beaucoup de gens étaient souvent involontairement des témoins de notre grande histoire à nous tous, hein, si vous voulez, et en particulier l'histoire de la région, on a lancé ça exactement en août 2016, je crois, l'activité ayant commencé en novembre 2015. Et à partir de là, bah, au fur et à mesure, on s'est un peu étoffé. Il y a des gens qui nous ont rejoints. Et voilà. Et surtout, surtout, au bout d'un certain temps, je dirais maintenant il y a environ 2 ans, si vous voulez, des gens nous ont appelés en disant « Mais écoutez, pourquoi vous n'avez pas fait Tonton Jules ?» Alors nous, on ne savait même pas que Tonton Jules existait. Donc, bon. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait un sujet. Et maintenant, je suis obligé de vous dire, en ce mois d'octobre où nous nous rencontrons, je suis obligé de vous dire que je pense que j'ai des sujets dans la tête qui vont me mener jusqu'en février, si vous voulez.
Au cœur du pays de Bourdeaux, le village de Soyan est éclaté en une multitude de quartiers fort éloignés, au point que les occasions de se rencontrer ne sont pas nombreuses. Ainsi, Germaine Aubert a vécu une rude vie paysanne dans une ferme isolée, plantée au milieu des champs. Et de même, avant elle, ses parents ou ses grands-parents. Pour sa famille, elle a rédigé l'histoire de sa vie qu'elle nous raconte maintenant.
Ça, c'est la maison de mes grands-parents. Ils sont venus en 1906. Ils étaient nés à Boubien. Je voulais faire voir à mes petits-enfants. Comme on venait d'être des familles pauvres et qu'on est toujours pauvres. Je voulais vous leur faire voir qu'on n'a pas toujours eu tout ce qu'on a voulu.
Donc, depuis 2016, vous avez, donc, vous le disiez, réalisé plus de 150 portraits où l'on fait la connaissance de toutes celles et ceux qui font l'histoire, finalement, de notre territoire. Mais alors, qu'est-ce que vous avez, là, depuis, maintenant, appris d'essentiel de toutes ces gens croisés?
Alors, je vous ferai remarquer que ceci n'est pas sans relation, pour répondre à votre question, avec le fait que j'ai été amené par la suite à écrire des livres, parce que tous ces gens ont été mes professeurs, si vous préférez. Et au fond, ce qui m'a intéressé, c'était la patte humaine. C'était que c'était le plus souvent des belles personnes. Je me suis dit, il y a un potentiel de qualité humaine, si vous voulez, dans cette région, qui mérite d'être valorisé, et surtout mis à la disposition d'un public qui, étant arrivé depuis pas très longtemps, connaît mal, au fond, cette épaisseur humaine qui a quand même été décisive dans des grandes épreuves. Nous sommes juste à côté du Vercors au moment où on parle. Là, bon, c'est tous les événements du Vercors. Il y a évidemment eu cette empreinte très forte dans la région du protestantisme, ce qui a quand même eu de l'importance au moment, par exemple, du coup d'État de 1851, où des tas de populations autour de nous là, se sont rebellées et ont voulu rétablir sans succès la République. Moi, si je dois retenir une chose, c'est la qualité des hommes, si vous voulez, c'est-à-dire le fait que nos paysages qui sont à la fois beaux, je suis d'accord, mais enfin durs aussi. Hein. Je veux dire, le gars qui habite Minglon, le gars qui habite Auslon, là-bas derrière, attendez, c'est pas très commode. Ils sont très isolés, les services manquent cruellement, faut se débrouiller par soi-même, etc. Et ça, je crois que là, il y a eu une relation, si vous voulez, entre le cadre de vie, le paysage, si vous voulez, et les hommes qu'il a formé d'une certaine manière. Moi, pour moi, c'est ça l'important.
Et aujourd'hui, du coup, bien sûr, depuis 2016, vous-même, vous continuez à transmettre un peu de ce que ces hommes et ces femmes ont été et dans quel, j'allais dire, but, dans quelle espérance peut-être?
Ah ben, j'espère bien que ceux qui nous regardent lentement se forment à l'idée qu'ils ne sont pas en train de regarder n'importe qui, si vous voulez. J'espère qu'ils perçoivent que ce sont des... Malgré la grande modestie de la condition sociale des gens que nous interrogeons, on n'interroge jamais des personnalités connues qui passent en photo dans le journal, etc. Non, non. En revanche, on est tout à fait à la chasse, on peut vraiment dire ça, de ce que j'appellerais des belles personnes, et qui peuvent être souvent des paysans, mais ça peut être un garde-chasse, ça peut être... Enfin, y a mille choses, pourvu qu'il y ait de l'épaisseur humaine. Et j'espère, ça c'est vraiment l'objectif, que nous faisons passer ça, que nous donnons envie à ceux qui nous regardent, de faire connaissance avec ces gens. Moi, il y a de temps à autre, vous savez, sur le système YouTube, vous avez, les gens peuvent faire des réactions. Et il y en a une que j'ai apprise par cœur, parce que je la trouve tellement magnifique. Il y a une dame qui m'a dit, écoutez, je suis née dans ce pays, et jamais il n'y a eu quiconque d'autre que vous pour m'apprendre l'histoire de ma propre région. J'ai trouvé ça exquis. Là, ce soir-là, j'ai pris un whisky, je peux vous dire, particulièrement fort.
La vallée de Quin dans la Drôme s'enfonce profondément dans le Vercors. Dans cette immensité végétale où l'on vit d'agriculture, la vie n'est pas facile et, au fil des siècles, le petit peuple cabochard qui a vécu là a mené bien des combats. Aujourd'hui, chose incroyable, ce lieu perdu est sélectionné par les autorités européennes pour l'audace de certaines de ses initiatives. La fibre optique dessert sa principale localité, des start-up s'y installent et la vallée a mis en route un programme pour produire autant d'énergie qu'elle en consomme. Tout cela grâce notamment à un charmant monsieur de 93 ans, Gérard Dellinger, dont le poids de l'âge n'arrive pas à ralentir les initiatives.
Mon épouse est du Nord, moi je suis Mosellan, et le hasard de nos fonctions, de mes fonctions en tout cas, en tant qu'ingénieur, m'a conduit dans différentes régions. On s'est dit, nos enfants qui commençaient à grandir, ils vont être de n'importe où. Ils vont être des itinérants. Donc, si on trouvait des racines quelque part, ça serait bien, ça serait pas mal.
Donc, connaître, comprendre mieux celles et ceux qui ont fait ou font l'histoire d'aujourd'hui, est-ce que c'est aussi un moyen de mieux nous connaître, nous tous et toutes qui vivons en société?
C'est-à-dire que je pense qu'il est important que nous sachions un peu mieux ce que nos voisins ont vécu pour comprendre au fond pourquoi nous avons nous-mêmes vécu des événements dans lesquels, souvent sans le vouloir, mais ils interagissaient, ils étaient là, ils ont joué un petit rôle, hein. Bon, donc ça nous permet de jeter un regard un peu plus fin sur ce que nous avons vécu grâce au témoignage du gars d'à côté. Alors le gars d'à côté, il peut être à 40 km, hein, on est d'accord, mais je pense que faire comprendre les interactions, quelle a été la motivation des gens qui ont agi au fond aussi sur nous. Je vais vous raconter une histoire, puisque nous enregistrons cet entretien à 10. Évidemment, ce n'est pas à vous que je vais apprendre qu'il y a une cave coopérative à 10. Bon, mais l'histoire de naissance, elle est absolument magnifique. Il y avait un jour un monsieur qui s'appelait monsieur Henri Bonnet et qui était originaire d'Espenel. Et ce Henri Bonnet était communiste. Autant vous dire que le bon Dieu, c'était pas vraiment son sujet. Et simplement, il n'était pas idiot, il voulait lancer une coopérative. Il disait, il faut que j'ai le maximum de viticulteurs avec moi. Et les viticulteurs d'ici, ils sont quoi? Dans leur immense majorité, c'était protestants. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé voir les pasteurs en disant, écoutez, mon idée, elle est super, vous allez voir, etc. Et le résultat, c'est qu'il s'est mis tout le monde dans la poche. Vous voyez, Ça, c'est lorsque je vous parle de la coopérative, vous pensez Pinard, c'est normal, c'est effectivement ce qui. Qui est-ce qui aurait pensé qu'il y a eu cette petite manœuvre super sympa, d'ailleurs, je lui en veux pas au pauvre Henri Bonnet. Mais ça nous dit quelque chose sur pourquoi les choses ont marché, quels ont été les ressorts, si vous voulez, de choses que nous avons pu voir.
Donc c'est bien ça, comprendre du coup, mais mesurer là où nous en sommes aujourd'hui en 2023, peut-être pour en tirer quelques leçons et pour peut-être oui tenter d'aller de l'avant, mais de manière positive, encourageante, parce qu'on entend évidemment un peu partout combien il y a de difficultés à tout plein d'endroits, notamment en agriculture, puisque vous en parlez.
Oui, mais vous savez, à la fin des fins, il y a les hommes, et la qualité des hommes, et leur résistance, et leur capacité à répondre. Et se dire que, oui, mais on n'est pas le premier, il y en a eu avant, et qu'après tout, ils ont fait comment ? Et que, en particulier, leur capacité, déjà il y a fort longtemps, à s'unir, tenant compte de toutes les populations, et pas seulement d'un groupuscule peut-être sympathique, mais très refermé sur lui-même. Ça a été la manière dont ils ont sauvé les choses. Je ne sais pas si vous savez, puisqu'on parle de choses agricoles, notre région où nous sommes, là, le Val-de-Drôme, a été, dans la France entière, une des régions pilotes en matière de mode coopératif pour alors aussi bien acheter ensemble les intrants nécessaires aux cultures, ou au contraire, vendre ensemble dans les foires, marchés, etc. Voilà. Ça, c'est à peu près 1930, si vous voulez, c'est autour de ça. Autant vous dire que ces gens étaient rudement en avance, et c'est parce qu'ils travaillaient ensemble qu'ils ont réussi leur coup.
Mon enfance à Plan de Baie a été, mon Dieu, je ne sais pas comment sont les enfants, l'enfance des autres, mais moi, ça a été spectaculaire, quoi. La nature qui s'éveille, tout ça, le printemps, c'était une osmose avec la nature. À Plan de Baie, il fallait garder les vaches. Mais il y en a beaucoup, ça gênait beaucoup, mais pas moi. J'étais contente quand on sortait les vaches, parce que j'étais en pleine nature. J'adorais ça.
L'art du journaliste Jacques Mourican est donc bien celui d'aimer les gens et de créer les conditions d'échanges sincères et vrais. Enregistrés à tout jamais, ces hommes et ces femmes du territoire resteront dans nos mémoires pour nous rappeler certainement ce qu'il y a d'essentiel.
C'était La balise sonore. Jacques Mourican au cœur des gens. Une réalisation RDIWA, la radio du DIWA. Archives sonores, association Vidéo Val-de-Drôme, à retrouver sur le site tvvaldedrome.com. Un programme financé par la Direction régionale des affaires culturelles Auvergne-Rhône-Alpes. Merci à toute l'équipe de la médiathèque DIWA Vercors. À bientôt. La balise sonore.
Les souvenirs du pensionnat, ça doit pas être très drôle, si ?
Oh non, pas très drôle. Non, là, j'aimais pas beaucoup. D'ailleurs, j'avais perdu je sais pas combien de kilos. Oui,
c'est sur le conseil du médecin qu'elle a quitté le pensionnat.
Oui, oui. Le docteur a dit à mes parents, si vous la laissez là, elle va continuer à dépérir. Il faudrait un changement complet. Alors, il y avait à Marsanne, il y avait une petite école qui était dirigée par une vieille personne, une directrice qui était...